Chapitre 53. Cocotte minute.
Alors que je faisais mes études à Falstaff, commença Vanderberg, je suis tombé sur un vieil ouvrage d'astronomie qui affirmait « Le système solaire se compose du Soleil, de Jupiter et de divers débris ». Ça remettait un peu la Terre à sa place, hein? Et c'était plutôt injuste pour Saturne, Uranus et Neptune, les trois autres géants gazeux qui font près de la moitié de Jupiter. Mais il vaut mieux que je commence par Europe. Comme vous le savez, c'était de la glace lisse avant que Lucifer se mette à la chauffer. Sa plus haute altitude n'atteignait pas 200 mètres, et elle n'a guère changé après que la glace a fondu et émigré pour se recongeler sur sa face nocturne. De 2015, le début de nos observations détaillées, jusqu'en 2038, il n'y a eu qu'un seul point culminant sur tout le satellite. Et nous le connaissons. Ah oui, nous le connaissons. Mais même après l'avoir vu de mes propres yeux, je n'arrive toujours pas à imaginer le monolithe comme un mur. Je me le suis toujours figuré vertical ou flottant librement dans l'espace. Je crois que nous avons appris qu'il peut prendre toutes sortes de formes, tout ce que nous pouvons imaginer, même au-delà. Il est évident qu'il est arrivé quelque chose à Europe en 2037, entre une observation et la suivante. Le mont Zeus est subitement apparu, avec ses 10 000 mètres d'altitude. Des volcans aussi énormes ne surgissent pas comme ça en 15 jours. Et d'ailleurs, Europe est beaucoup moins active qu'Io.
C'est bien assez actif pour moi, grommela Floyd. Vous avez senti la dernière secousse?
Si ça avait été un volcan, il aurait craché une énorme quantité de gaz dans l'atmosphère. Bon, il y a eu des changements, mais pas assez pour que cette explication soit la bonne. C'était un mystère absolu.
Et comme nous avions peur de trop nous approcher, et parce que nous étions trop absorbés par nos propres projets,
nous n'avons pas fait grand-chose, sauf élaborer des théories fantastiques. Dont aucune, finalement, n'était aussi fantastique que la vérité. J'ai commencé à m'en douter un peu par hasard, à la suite des observations de 2057, mais je ne les ai pas prises au sérieux avant 2 ans. À ce moment-là, j'ai dû me rendre à l'évidence. Pour quelque chose de moins bizarre, cela aurait été absolument convaincant. Mais avant de me laisser aller à croire que le mont Zeus n'était qu'un seul diamant, je devais trouver une explication. Pour un bon esprit scientifique, et je crois en avoir un, aucune réalité n'est respectable tant qu'il n'y a pas de théorie pour l'expliquer. La théorie peut se révéler fausse, elle l'est généralement, tout au moins pour quelques détails, mais elle doit fournir au moins une hypothèse de travail. Et comme vous l'avez fait observer, 1 million de millions de tonnes de diamants dans un monde de glace et de soufre, ce n'est pas commode à expliquer. Naturellement, maintenant que c'est parfaitement évident, je me dis que j'ai été un imbécile de ne pas avoir vu la solution il y a des années. Ça nous aurait évité pas mal d'ennuis et aurait au moins épargné une vie.
Vanderberg s'interrompit, un instant songeur, puis il demanda brusquement à Floyd.
« Est-ce qu'on a mentionné devant vous le professeur Paul Kruger ?»«
Non, pourquoi ?»« J'ai entendu parler de lui, bien sûr. »«
Simple curiosité. »«
Il s'est passé beaucoup de choses bizarres et je doute que nous en connaissions un jour toutes les explications. »«
Bref, ce n'est plus un secret, alors ça n'a plus d'importance. » Il y a 2 ans, j'ai envoyé un message confidentiel à Paul. Ah, pardon, j'oubliais de vous dire. C'est mon oncle.
Je lui ai donc envoyé un résumé de mes découvertes en lui demandant s'il pouvait les expliquer ou les réfuter. Il n'a pas mis longtemps, en virtuose de l'informatique qu'il est.
Malheureusement, il a été négligent ou quelqu'un était à l'écoute de son réseau. Vos amis, j'en suis sûr, quels qu'ils soient, doivent s'être fait une assez bonne idée de ce qui s'est passé depuis.
En 2 jours, il a exhumé un article vieux de 80 ans dans la revue scientifique Nature,
oui, c'était encore en imprimé sur papier dans ce temps-là, qui expliquait tout, enfin, presque tout.
L'auteur travaillait pour un des grands laboratoires des États-Unis, d'Amérique, bien sûr, les USSA n'existaient pas encore.
C'était un établissement où l'on fabriquait les armes nucléaires, alors on y était au courant des hautes températures et des pressions. Je ne sais pas si le professeur Ross, c'était son nom, s'occupait des bombes, mais ses fonctions ont dû l'amener à réfléchir à la composition du noyau des planètes géantes. Dans son article de 1981, d'une demi-page seulement, incidemment, il avançait des suggestions très intéressantes. Il faisait observer qu'il y avait dans les géants gazeux d'énormes quantités de carbone sous forme de méthane CH4, jusqu'à 70% de la masse totale. Il calculait que sous les pressions et les températures du noyau, des millions d'atmosphères, le carbone se séparait, tombait vers le centre et, vous avez deviné, se cristallisait. C'était une superbe théorie. Jamais il n'a dû imaginer qu'il y avait un espoir de l'avérer. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Par certains côtés, la deuxième partie est encore plus intéressante.
Il reste encore du café?
Tenez.
Et je crois avoir déjà deviné la deuxième partie. En rapport avec l'explosion de Jupiter, évidemment.
Non, pas explosion. Implosion. Jupiter s'est simplement effondrée sur elle-même, et puis s'est enflammée. Un peu comme la détonation d'une bombe nucléaire, à cette différence que le nouvel état était stable, en un mot, un mini-soleil. Or, il se passe des choses très bizarres au cours d'une implosion, presque comme si des éclats se traversent mutuellement et ressortent de l'autre côté. Quel que soit le mécanisme, un morceau du noyau de diamant a été projeté sur orbite. Il a dû faire des centaines de révolutions, perturbé par le champ de gravité de tous les satellites, avant de finir sur Europe. Et les conditions devaient être particulièrement propices. Europe et le diamant se trouvant en conjonction sur des orbites proches pour que la vitesse d'impact ne soit que de 2 km seconde. S'il s'était heurté de front, eh bien, il n'y aurait pas d'Europe aujourd'hui, encore moins de mon Zeus. Et il m'arrive de faire des cauchemars quand je pense qu'il aurait très bien pu tomber sur Ganymède. La nouvelle atmosphère a pu aussi amortir l'impact, mais même alors, le choc a dû être effroyable. Je me demande comment ont réagi nos amis européens. Il a certainement déclenché toute une série de turbulences tectoniques qui continuent aujourd'hui. Et sur Terre, des turbulences politiques, dit Floyd. Je commence à peine à en comprendre quelques-unes. Pas étonnant que les USSA se soient inquiétés. Entre autres. Mais comment imaginer qu'il soit possible de faire main basse sur ces diamants ? Nous y sommes bien arrivés, répondit Vandenberg en faisant un geste vers l'arrière de la navette. Quoi qu'il en soit, le simple effet psychologique sera énorme sur l'industrie. C'est pourquoi tant de gens tenaient tellement à savoir si c'était vrai ou non. Et maintenant, ils savent. Alors, que va-t-il se passer ? Ce n'est pas mon problème, Dieu merci. Mais j'espère avoir apporté une importante contribution au budget de Ganymède. Et au mien, pensa Vandenberg.